Vous écoutez France Culture.
Et à 11h tous les jours sur France Culture, place aux questions d'époque. Caroline Brouet, Olivier Pastré, nous sommes lundi et c'est l'économie en question. Bonjour Olivier.
Bonjour Caroline.
Entretien ce matin dans l'économie en question pour une émission en léger différé puisque enregistrée ce vendredi en fin de journée. Nous sommes très heureux d'accueillir un homme qui se fait rare dans les médias aujourd'hui et dont pourtant la parole compte encore en France et en Europe. Cet homme c'est Jacques Delors que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous avez été ministre de l'économie et des finances de 1981 à 1985, président de la Commission européenne de 1985 à 1995, président du Conseil de l'emploi des revenus de la cohésion sociale le cercle de 2000 à 2008. Aujourd'hui, il paraît que vous cherchez à partir à la retraite. Et en attendant les beaux jours, vous publiez un livre coécrit avec l'économiste rapporteur du cercle, Michel Dolé, « Investir dans le social », ça paraît chez Odile Jacob. Pour commencer cet entretien, Jacques Delors, exceptionnellement, la chronique d'Olivier Pastré se fait non pas à la fin de l'émission, mais au début et sous forme de portrait, portrait que Olivier Pastré a intitulé « Portrait Google ». À vous la parole, Olivier.
Oui, c'est tellement déprimant de faire la biographie de Jacques Delors, parce que la carrière est si riche qu'on ne sait pas par quoi commencer, par quoi finir. Vous avez donné les grandes dates. Caroline, juste quelques éclairages qu'on va retrouver probablement dans l'émission. Vous avez commencé votre carrière en étant syndicaliste CFDT, alors on parlera peut-être à un moment ou à un autre, j'imagine que Caroline, ça la démange du pape. Puis vous avez été au cabinet de Jacques Chaban-Delmas entre 69 et 72, et là vous avez voté ou fait voter la loi sur la formation permanente, on va y revenir probablement dans le débat, puis ministre de l'économie et des finances, vous l'avez dit Caroline, et là ça traite deux sujets qui sont pas très loin de l'actualité, la nationalisation des banques, on y revient aujourd'hui, et puis aussi la suppression de l'échelle mobile des salaires qui a été le point de départ de la désinflation, enfin président de la Commission européenne, vous avez poussé pour le renforcement de l'exécutif de la Commission, on vous a malheureusement pas beaucoup écouté, et il faut rappeler que le comité de l'or a permis de créer la monnaie unique. Alors, portrait Google, pourquoi ? Parce que je fais ça de temps en temps, je regarde sur Google et j'ai fait une comparaison entre vous et Nicolas Sarkozy. Alors, il y a un petit décalage en termes de citation, parce que Nicolas Sarkozy, de par sa présidence actuelle, est évidemment extraordinairement cité. Mais si on fait une petite règle de trois pour rétablir l'équilibre, à ce moment-là, on arrive à faire une comparaison qui me paraît très intéressante. Alors, j'ai pianoté sur dévaluation. Contre toute attente, votre nom arrive plus souvent, alors que vous avez lutté contre ardemment quand vous étiez ministre de l'économie et des finances. Nationalisation, vous êtes presque à égalité. C'est très curieux. Dans deux autres temps, autre mœurs, c'est pourtant parfois même méthode. Quand on regarde les qualités sociales, vous l'emportez assez significativement. Modeste, très significativement. Rigueur, il n'y a pas photo. Alors, efficace, il gagne. Et alors, le clic où il gagne incontestablement, et là, de très, 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 très loin, c'est Bling Bling.
Merci Olivier Pastré, voilà qui méritait d'être dit et précisé pour nos auditeurs. Jacques Delors, puisque vous êtes là essentiellement pour la sortie de votre livre, commençons donc par cette question de l'état social qui est au cœur de votre ouvrage. Dans un deuxième temps, comme nous avons aussi envie de vous entendre sur d'autres sujets, vous vous en doutez, nous parlerons de la crise mondiale, de l'Europe, du capitalisme et de l'éthique. Et en fin d'émission, nous serons rejoints par Raymond-François Lebris, ancien directeur de l'ENA, qui a rendu il y a quelques semaines son rapport de mission sur la formation des agents de l'État au ministre du Budget, des Comptes publics et de la fonction publique, Éric Woerth, et à André Santini, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Mais d'abord donc, ce livre, Investir dans le social, que vous copubliez avec Michel Dolé chez Odile Jacob, un livre qui donne l'impression à sa lecture d'être à contre-courant. Alors pourquoi je dis à contre-courant ? Parce qu'on dirait qu'il est en décalage avec son temps. Son temps, c'est quoi ? C'est un temps de crise. On a l'impression que c'est un livre pour tant de stabilité économique, dans lequel vous dites que la priorité absolue de l'État doit être l'emploi. L'État, qui a déjà du mal à lutter contre le chômage depuis 30 ans, mais aujourd'hui, avant de penser à créer des emplois, il s'évertue plutôt à trouver comment éviter d'en perdre plus. 80 000 emplois perdus en février, les chiffres viennent d'être rendus. Alors la question, Jacques Delors, c'est plutôt comment arrêter l'hémorragie aujourd'hui ?
Oui, le lien entre cet ouvrage qui repose sur 8 ans de travail avec Michel Dolé, beaucoup d'analyses, d'études, d'expériences étrangères, de dialogues avec des chercheurs non français, ce livre a pour objectif de montrer qu'il faut réorienter l'État social ou l'État-providence. Son point commun avec la crise, c'est que le grand thème, c'est préserver le capital humain. Et par conséquent, aujourd'hui, même dans cette période de crise, chaque fois que l'on peut être, et on est dans le droit fil du livre, chaque fois que l'on peut éviter les licenciements secs, faire en sorte que toutes ces personnes qui sont hors de la production ou pendant un moment, puissent continuer à être actives sur le marché, garder confiance en elles-mêmes, retrouver des forces, de la capacité, comme dit Amartya Sen, eh bien, ce sera bon. C'est ça le point entre les deux. Mais le livre, sa motivation essentielle, est que Michel Dolé et moi sommes des passionnés militants de la recherche d'une véritable égalité des chances. Et bien entendu, au terme de ce parcours, nous estimons d'ailleurs que si on la réalise un peu mieux, la performance économique aussi sera meilleure, parce que de talents gâchés. Mais je peux concevoir que, comme toujours, car ce n'est pas la première fois que j'emploie ces thèmes, ça choque certains.
Oui, je voudrais revenir un tout petit peu sur le passé. On peut dire qu'en gros, il y a eu les 30 Glorieuses avec la domination de l'État-providence. Objectivement, le système s'est grippé et a conduit à ce qu'on appelait à l'époque la stagflation. On l'a libéralisé et pendant toute une période, ça a plutôt bien marché. Alors, quels sont les grains de sable qui fait que les réformes auxquelles vous avez plus que participé, que vous avez animées au début des années 80, sont allées trop loin, ne sont pas allées assez loin en regardant un peu dans le rétroviseur, quels sont les enseignements que vous tirez ?
Non, mais je veux dire, il faut d'abord regarder soi-même ce qui n'a pas marché. Par exemple, lorsque j'étais chez Jacques Chaban-Delmas, ma passion essentielle, c'était de créer en France un véritable système de relations industrielles. Disons de relations sociales, mais le mot « industrial relation » dit davantage ce qu'il veut dire. Je me suis aperçu que
c'était la nouvelle société.
Oui, c'était un des aspects. Donc, on a obtenu des résultats indiscutables. 2 ans après notre départ, on était revenu dans le train-train habituel. Les liaisons à la fois faciles et difficiles avec les différents syndicats. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, quand je me porte maintenant au poste de ministre de l'Économie et des Finances, j'étais obligé d'être le monsieur qui dérange, parce qu'il y avait un enthousiasme lié aussi au coût économique et social de toute alternance, surtout après tant d'années. Mais cette bataille contre l'inflation, je la trouvais essentielle pour la France. Et je suis parti au moment où on avait consolidé les résultats de la lutte contre l'inflation, mais on entrait dans un nouveau monde qui m'a toujours amené beaucoup de perplexité, parce que je ne crois pas à l'autorégulation des marchés financiers. Ou plutôt, je ne crois pas à l'autorégulation de la finance de l'économie.
Là, vous n'allez pas à contre-courant, Jacques Delors.
Comment ?
Et là, vous n'allez pas à contre-courant, aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, mais une chose est de, après la terrible crise que nous commençons, une chose est de le dire, une autre chose est de le faire, et croyez-moi, ça pose des problèmes extraordinairement compliqués. Mais c'est quand même la revanche de Keynes, profondément. Parce que Keynes a toujours pensé que les crises étaient endogènes au système financier, et non pas extérieures à ce système.
Jacques Delors, vous définissez votre état d'investissement social dans ce livre comme n'étant pas un substitut à l'État-providence. Ça veut dire que c'est une continuation, un complément ?
Disons pour simplifier que l'État social ou l'État-providence peut avoir 3 objectifs. Prévenir les risques. Deuxièmement, compenser les risques. Et troisièmement, restaurer la capacité de ceux qui ont eu un risque. L'État-providence classique à la française a fait bien le deuxième objectif, compenser les risques. Les initiatives de la troisième voie, ou les formules scandinaves, ont mis l'accent sur la restauration des capacités, avec la formule de Giddens, l'homme est face à la mondialisation, que j'accepte à la fois et que j'ai critiqué. Nous, nous mettons l'accent sur les trois, mais avec une priorité à la prévention des risques. Et pourquoi ? Parce que de talents gâchés, que de personnes rejetées dans l'exclusion, de la simili-exclusion, à cause précisément de que notre système ne fonctionne pas bien et ne donne pas à chacun l'égalité des chances.
Alors l'accent mis sur la prévention, ça veut dire qu'au cœur de vos préoccupations se trouve la solidarité effectivement l'égalité des chances. Deux axes principaux sont dégagés dans votre livre pour cette préoccupation centrale qui est la solidarité. C'est l'emploi d'un côté et c'est l'éducation de l'autre. Mais d'abord une question, Jacques Delors. Est-ce que vous pensez que nos sociétés sont encore capables de produire de la solidarité ?
C'est la grande question. Parce que je laisse de côté la dimension économique, mais je prends celle du behaviorisme, des valeurs vécues. La progression de l'individualisme est considérable. Évidemment, comme j'ai 83 ans, on peut dire que j'ai de la nostalgie du passé. Peut-être, mais quand même, dans la société d'après-guerre et dans les Golden Sixties, eh bien, il y avait plus de solidarité. Je m'angoisse à l'idée que la société ne produit plus de solidarité.
Solidarité ou fraternité, comme tente de réhabiliter ce terme Régis Debray dans un ouvrage récent.
Oui, là nous nous plaçons, il se place sur un plan moral et spirituel, je comprends. Mais moi, pour l'instant, je reste à solidarité parce que ce qui m'agace le plus actuellement, c'est cette demande des médias que les responsables interviennent. Et comme on ne peut pas intervenir tous les jours, si certains le font, avec plus ou moins de succès, eh bien, on affiche de la compassion. Mais la compassion, ça donne bonne conscience à beaucoup de ceux qui l'écoutent ou qui la regardent. Mais ça n'est pas un acte. Et je crains beaucoup que l'individualisme puisse se conjuguer avec la compassion.
Solidarité, pas de problème. Encore faut-il la restaurer. Comment on articule ça avec un autre concept que vous évoquez dans votre livre, qui a été, a priori, le concept de, on va dire, l'économie de marché triomphante, qui est la responsabilité. Comment est-ce qu'on articule les deux ?
C'est à rechercher une dialectique entre responsabilité collective et responsabilité individuelle.
Comment, Jacques Delors ?
Eh bien, selon les pays, c'est différent. En France, il fallait mettre l'accent sur la responsabilité individuelle. L'État vient à mon secours, la société aussi, je leur dois quelque chose. Mais quand on rentre dans la définition pratique, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un emploi convenable ? Quand est-on coupable de refuser un emploi convenable ? Ça n'est pas ça. Mais aujourd'hui, avec le courant de l'individualisme, le procès fait constamment à l'impôt sur le revenu, considéré comme une malédiction, alors il faut aussi restaurer la responsabilité collective. Donc il faut jouer sur les deux tableaux, et ça n'est pas facile de faire l'un et l'autre en termes de communication ou d'animation du dialogue civique ou social.
Si on prend maintenant des thèmes plus précis, comment ça se traduit, notamment en matière de formation ? Comment est-ce qu'on peut se servir du levier de la formation initiale et permanente, vous connaissez les deux, pour justement garder la responsabilité et recréer de la solidarité ?
D'abord, ce qui a intéressé, mais parfois perturbé nos lecteurs, voire ceux qui sont proches de nous, c'est que nous avons commencé par l'emploi. Parce que c'est là que se creusent actuellement des inégalités plus fortes, en plus des inégalités traditionnelles que chacun connaît.
Et c'est encore plus vrai aujourd'hui.
L'emploi, il y a un chiffre tout à fait simple, c'est que si l'on regarde les salaires horaires, l'amplitude des salaires horaires entre les plus élevés, on est de 1 à 3. Mais si l'on regarde ce que les gens gagnent par an, on est de 1 à 13 et pour les femmes de 1 à 18. Donc l'emploi, et nous l'avons dit dans un rapport du CERC sur la France en transition, un overview des 5 dernières années, la France, de ce point de vue-là, voit se creuser ces inégalités. Donc nous avons commencé par l'emploi. Mais comment faire en sorte que le marché du travail fonctionne mieux? Bien sûr, il y a des problèmes techniques. Hein. La qualité de la production du marché du travail. Qu'est-ce que va donner Pôle emploi? Bon, pas le dire à l'avance. Est-ce que vraiment on va s'intéresser à accompagner les gens?
Surtout avec plus de 100 000 chômeurs supplémentaires par mois.
Oui, oui. Mais le RMI transformé en RSA, les responsables au premier rang, le département. Est-ce que le département a les capacités, le goût d'accompagner des gens qui, s'ils ne sont au chômage durablement, c'est souvent dû à un accident de la vie ou à la santé ou à un autre. Donc, nous avons commencé par l'emploi. Mais ensuite, si l'on veut vraiment faire de la prévention et tenter d'aller vers l'égalité des chances, avec ce pilier d'angle pour nous après des séminaires internationaux qui est Rawls, hein, comme pensée, alors il faut regarder successivement l'éducation, la formation continue, la politique familiale et la politique de l'enfant. Peut-être c'est l'idée qui bouscule le plus. Regarder l'enfant à partir de ses besoins pour son devenir et pour son bien devenir, et non pas avoir une politique de l'enfant en fonction de la société, des familles ou autres. Reprendre l'enfant à partir de l'enfant lui-même. Je pense que c'est l'idée la plus forte, ou celle qui peut faire le plus discuter, mais qui est vraiment fondamentale.
Vous proposez bien, Jacques Delors, la création d'un service public de l'enfance, non pas seulement de la petite enfance, en effet, oui, oui. Mais de l'enfance, disons, jusqu'à 10 ou 12 ans.
Oui, parce que toutes nos expériences sur les échecs scolaires, qui se traduisent par un chiffre spectaculaire, un adolescent sur 6 quitte le secondaire sans diplôme, vous vous rendez compte? On est à des chiffres de 1 sur 20, 1 sur 30 dans les pays nordiques. Donc ce qui est important, c'est le démarrage. Nous avons fait une étude sur les enfants pauvres qui nous a beaucoup intéressés sur ce point. Donc, mais service public de l'enfance, ça ne veut pas dire étatisation de tout. Ça veut dire simplement qu'il y a un encadrement.
Concrètement, on fait comment?
Concrètement, par exemple, actuellement, il y a des assistantes maternelles qui travaillent à titre individuel. Elles ont 4 ou 5 missions par semaine. Bon. Elles n'ont pas le temps d'échanger entre elles. Les familles les moins pourvues ou les plus malheureuses n'ont pas accès à elles. Donc l'idée, ce serait d'avoir des cellules d'assistantes maternelles qui se retrouvent ensemble, qui échangent leurs expériences et qui couvrent un peu le territoire.
Jacques Delors, c'est une question de moyens ou c'est une question de philosophie? Ou les deux, mon colonel?
Oui, c'est aussi une question de philosophie. Vous remarquerez que toutes les mesures qui ont été prises pour l'aide à la personne, qui est un chantier, c'est vrai, un immense vivier d'emplois futurs, toutes ces mesures ont été prises proportionnellement dans l'aide aux revenus que vous avez. Et quand j'ai discuté de ça, notamment avec plusieurs personnes, elles m'ont répondu, et c'est là où il y a la divergence, elles m'ont répondu, mais vous voyez, au début, les automobiles étaient achetées par les gens les plus riches, puis après, elles se sont diffusées. Moi, je dis, les services à la personne n'entrent pas dans la même logique. Et c'est pour ça que nous pensons qu'on pourrait redéployer très bien une partie des ressources affectées à l'aide à la personne pour la concentrer sur ceux qui en ont le plus besoin.
Mais investir dans l'enfant, Jacques Delors, suppose aussi de trouver des moyens de concilier la vie familiale et la vie professionnelle, oui, oui, et en particulier de travailler, si je puis dire, sur le travail des femmes
des rôles. Il y a deux problèmes qui s'ajoutent à celui de l'inégalité des conditions. La première, c'est toutes les familles qui sont en risque d'instabilité. Par exemple, les idées que nous professons là ont été aussi professées par Espin Anderson, le célèbre spécialiste des questions sociales. Lui, ce qui l'avait frappé, c'est le développement des familles monoparentales. Mais pour nous, il y a aussi les familles qui sont dans les quartiers pauvres, dans les quartiers déshérités, et il y a aussi les familles qui n'ont pas la possibilité de maîtriser cela. Donc, il y a la prise en compte du risque d'incertitude et aussi la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, puisqu'actuellement, ça reste difficile pour toutes les familles. Et donc, le libre choix de la femme, alors qu'en France, il y a un développement très important du travail féminin, et un développement moins important que dans d'autres pays du travail à temps partiel, c'est vrai, mais il reste quand même beaucoup à faire pour assurer ce libre choix.
Vous n'avez pas répondu à ma question sur la formation, donc je vais y revenir. Mais en restant sur l'enfant, comment on finance tout ça? La question, je risque de vous la poser plusieurs fois pendant l'émission.
Je sais que nous avons déjà heurté plusieurs personnes, mais voilà. En ce qui concerne l'enseignement supérieur...
Comment on finance que...
Oui, il faut davantage d'argent. On n'arrive pas à trouver des économies qui puissent financer ça. Mais en ce qui concerne le primaire et le secondaire, on pourrait avoir des classes moins nombreuses dans le primaire, ce qui est essentiel, en ayant moins d'options dans le secondaire. Et en ce qui concerne la formation permanente, 23 à 24 milliards d'euros par an, on pourrait basculer 4 ou 5 ou 6 milliards vers les publics les plus défavorisés.
Est-ce que c'est suffisant, Jacques Delors, par rapport à l'immense effort national que requiert la transformation, la mutation du système éducatif global tel que vous le préconisez dans votre livre? Est-ce que ça ne suppose pas une augmentation de la pression fiscale, tout simplement?
Non. Si vous me parlez de l'ensemble du projet, une société productrice de solidarité, je vous dirais que l'impôt sur le revenu est l'impôt citoyen et qu'il est, dans le fond, la traduction... d'une conscience de chacun qu'il participe à un effort national de solidarité. Quitte à diminuer d'autres impôts, mais peut-être est-on gêné par le fait qu'il y a un impôt sur la fortune. En France, c'est l'excuse que se donnent beaucoup de responsables de la droite et du centre pour dire on ne peut pas maintenir l'impôt sur le revenu. Bon, laissons de côté l'impôt sur la fortune, mais moi j'ai toujours considéré que l'impôt direct sur le revenu est l'impôt payé et non pas... prélevé d'une manière insensible sur les comptes, était un élément essentiel de la citoyenneté.
Jacques Delors, vous insistez beaucoup dans votre livre également sur la formation continue, la formation permanente, comme le disait Olivier à l'instant, et vous insistez sur cette formation comme une seconde chance. Encore faut-il, et vous le dites, mais encore faut-il que la première chance ait été donnée à tout le monde, voilà. Avant de parler d'une formation de deuxième chance.
Et c'est pour ça que tout se joue, laissons de côté les programmes, etc., c'est vrai... C'est vrai, le constat qui est fait en France, et que Tony Blair a fait aussi, c'est qu'à l'âge de 12 à 15 ans, il y avait 15% des jeunes Anglais qui ne possédaient ni le calcul, ni l'écriture, ni l'expression. C'est vrai. Donc, une bataille essentielle pédagogique. Mais pour nous, tout se joue entre la naissance et 7-8 ans. Et c'est là qu'il faut faire l'effort principal, sans enrégimenter les familles, mais donner vraiment à chacun ses chances. Et donc développer les services de qualité, répondant d'ailleurs à des situations qui peuvent être différentes. Comme je l'ai dit, une famille monoparentale n'est pas forcément une famille qui a peu de revenus. Bon, il y a des cas, il faut s'adapter un peu à chaque cas.
Je vous trouve d'une extrême pudeur, ce qui est une de vos grandes qualités. Mais dans le débat, il faut, me semble-t-il, quitter cette pudeur. Parce que si on prend les propositions de votre livre, ça va, pardon de revenir à ce point-là, mais il est quand même essentiel, a fortiori dans une période de crise, nécessiter des réallocations budgétaires très significatives. Je ne prends que l'exemple de la formation professionnelle. Vous citiez les chiffres. Oui. Il y a beaucoup d'argent dans la formation professionnelle. Oui. Peut-être pas assez, dirais-je, Caroline, mais enfin, il y a quand même des masses considérables qui sont extraordinairement gâchées. Là, je ne suis pas pudique en disant ça.
Bien sûr, cher ami, on est obligé de le dire. Mais je fais attention en le disant parce que quand je rencontre un responsable de droite, il me dit il y a à gratter là-dedans, il y a peut-être à gagner 7 et 8 milliards en pensant à son équilibre budgétaire ou à son budget global. C'est faux. C'est 7 à 8 milliards ou 5 ou 6 qui ne sont pas très bien utilisés. Il les faudrait... Pour ces enfants, ces adolescents qui quittent l'école sans diplôme, il les faudrait pour ceux qui, c'est l'élément essentiel de la sécurité sociale professionnelle, doivent changer de travail. Il faudrait davantage de formations longues et pas simplement des formations courtes. Voilà des réorientations qui peuvent se faire à l'intérieur de l'enveloppe financière actuelle. Mais ce n'est pas ce qu'ont fait les partenaires sociaux dans leur accord. Ouais, pour être tout à fait clair.
Et pour être tout à fait clair, Jacques Delors, et c'est la question que je vais vous poser, investir dans le social, ça n'a pas l'air d'être la voie qui est privilégiée par le gouvernement actuel. Que pensez-vous des réformes qui sont engagées actuellement par le gouvernement de Nicolas Sarkozy?
Je pense que, d'abord, je me place comme vous dans le contexte de la crise. Eh bien, je crois que quelques mesures sélectives, une indemnité par-ci, une avancée d'argent par-là, ne répondent pas à la situation et que le mix ou le dosage n'est pas bon entre la consommation et l'investissement. Et que même à l'intérieur de l'investissement, on a mis des facilités de trésorerie pour les autres qui donneront peut-être à leur tour des investissements. Mais je crois cependant que compte tenu de la gravité de la crise et en prenant peut-être quelques risques du côté de l'inflation pendant 2-3 ans, il fallait un meilleur dosage entre consommation et investissement. Donc on a pris des mesures ciblées pour soi-disant les plus défavorisés, mais ce n'est pas... C'est bien en soi, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une réponse suffisante pour éviter un scénario à la japonaise, c'est-à-dire 10 ans de stagnation.
Là aussi, vous êtes relativement pudique, puisque dans votre livre, Jacques Delors, notamment page 54, on peut relever quelques petites piques à l'encontre du gouvernement, comme celle-ci que je lis. Pour donner sens au slogan « Travailler plus pour gagner plus », il faudrait à l'évidence réduire la précarité de l'emploi plus que de jouer sur les heures supplémentaires.
Oui. D'ailleurs, il y a deux mesures qui sont à contre-courant de l'action des pouvoirs que devraient mener les pouvoirs publics. D'abord, j'ai toujours été contre l'exonération fiscale des heures supplémentaires. Parce qu'en termes de droit du travail, de droit social, quand on va au-delà de la durée normale, ça doit coûter un peu plus cher. Mais prendre cette mesure à un moment où le grand problème, c'est d'éviter les licenciements secs, c'est contre-productif absolument. Puisque vous pouvez avoir 25 personnes, vous avez besoin d'un peu plus, vous augmentez les heures supplémentaires pour certains et vous n'embauchez pas. Même si vous avez eu 4 ou 5 travailleurs qui partent à la retraite. Et la deuxième mesure qui est contre-productive, là, je vous dis, on dira que c'est la facilité, mais quand même, quand tous ceux qui voient tomber sur eux la crise, avec l'abandon de leur travail, de perspective, songez quand on a 50 ans, une femme ou un homme qui travaille dans l'industrie en ce moment, qui ont dit c'est fini pour ce travail-là, le bouclier fiscal, quand même. Hein, quand même.
Non, les heures supplémentaires, c'est la faute aux 35 heures, comme chacun sait. Quel regard portez-vous sur le rôle des syndicats en France aujourd'hui, justement dans une période où on sent très bien qu'il va falloir faire des réformes, qu'il va falloir faire des arbitrages, qu'on peut pas, qu'il faut quand même essayer de même si on fait un peu de keynésianisme, de fonctionner à budget constant. Comment fait-on avec le type de syndicalisation qu'on a aujourd'hui en France?
Oui, je sais que c'est très difficile. Le taux de syndicalisation est faible, trop faible. Vous savez que dans certains pays, quand des syndicats obtiennent un avantage, il n'y a que ceux qui sont syndiqués qui en profitent. Il faut quand même réfléchir un peu à cela. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite dans la situation actuelle parce qu'ils sont obligés de cavaler après un président de la République qui mène les affaires de l'État comme une campagne électorale. Alors on leur remet sans arrêt des choses à faire et on ne se donne même pas le temps de les faire bien. Je vous dirais par exemple que la célèbre réforme des retraites qu'a fait la Suède, il a fallu 6 ans de discussion avec en face 2 grands syndicats, LO pour les ouvriers, TCO pour les cols blancs. Il a fallu 6 ans. Donc là, il y a une précipitation. Et ensuite, il y a même un élément qui ne correspond pas à la Constitution française actuelle. C'est quand ils ont eu un accord sur la modernisation du marché du travail, on a rajouté quelque chose pour faciliter le démantèlement des 35 heures. Vous savez, dans un autre pays, les syndicats auraient considéré ça comme une rupture grave du contrat moral. Donc, je suis indulgent. Je trouve même qu'ils ont fait des efforts, mais... Il faut laisser du temps au temps, comme on dit. Et être réformateur, ça ne veut pas dire cavaler. Il faut prendre son temps.
D'un certain point de vue, l'État intervient beaucoup plus depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République. Il est quelque part presque colbertiste. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Quel est l'équilibre à trouver entre le retour de l'État, que la crise appelle nécessairement, et le libre fonctionnement des marchés ?
Doit accepter d'augmenter les dépenses budgétaires, venir au secours des banques pour essayer de régler à la fois la crise de solvabilité et la crise de liquidité, ce qui est différent.
Les nationaliser éventuellement ?
Non.
Vous êtes tellement battu contre au début des années 80.
Enfin, j'étais pas pour la nationalisation de l'ensemble du système bancaire.
Même provisoirement, Jacques Delors ?
Non, mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il devrait y avoir, là où on est intervenu massivement, il devrait y avoir un représentant ou deux de l'État au conseil d'administration. Ça, pour moi, c'est indiscutable parce que ce n'est pas une garantie absolue, mais ça correspond quand même à du bon sens et à de la logique. Donc, ils sont. Ça, c'est l'effort pour la crise. Le plus difficile, c'est d'essayer de faire en sorte que la France ne fasse pas comme d'habitude.
C'est-à-dire
quand il y a eu des crises, la France est rentrée plus tardivement que les autres dans la crise, mais elle en est sortie bien après, et d'une manière poussive. Donc ça me hante. Et la raison principale est simple. Ce n'est pas, comme on a dit, que nous avons un système de couverture sociale plus grand que les autres. Non. Faisons les fils des calculs, il y a autant de protection.
Qu'aux États-Unis, si,
non,
quand même.
Non, aux États-Unis, mais en Europe. Pareil. Mais ce qu'il y a, c'est que notre économie manque d'élasticité et de compétitivité. Et c'est ça qui est. Et c'est pour ça que je pense que le dosage entre consommation et investissement était très important.
Toujours sur la crise, Jacques Delors, est-ce que vous seriez d'accord avec Alain Minc qui, dans une lettre à ses amis de la classe dirigeante la semaine dernière, traitait les patrons d'autistes et leur rappelait que 1789 s'était joué en 1788 ?
Oui, c'est un peu excessif, mais... Et tout ce qui est excessif n'a pas généralement beaucoup d'intérêt, mais là, il faut distinguer entre les chefs d'entreprise et les banquiers. En ce qui concerne les chefs d'entreprise, ils devraient savoir que nous avons passé, et monsieur qui est là aussi, beaucoup de temps à expliquer aux Français, qu'on soit de gauche ou de droite, que l'entreprise était très importante, la mère nourricière de la société, par conséquent. Bon. Alors, voilà les mêmes qui, aujourd'hui, d'une manière absolument insolente, ne pense pas qu'il faut d'eux-mêmes retirer les stock options et certains bonus. Non, 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 il faut les forcer. Alors, imaginez tous les gens qui, en France, car c'est un trait, sont méfiants vis-à-vis de l'entreprise et du marché. Imaginez les faits. Ça, c'est pour... Quant aux banquiers, ils n'ont rien compris. Les conversations qu'ont pu avoir les experts avec eux, professeur Aglietta, ou même dans d'autres rencontres, les banquiers considèrent que, bon, c'est un moment difficile à passer, que c'est le rôle du contribuable et de l'État de les aider, mais qu'après, on reprendra comme avant. Et là, c'est grave. Et comme c'est très difficile, en plus, de monter des systèmes de régulation, il faut absolument qu'il y ait tout un travail, même intellectuel, si vous voulez, le point le plus important, c'est redonner son sens au long terme dans la conduite des affaires publiques et des affaires d'entreprise.
Oui, mais c'est pas la faute des banquiers, c'est la faute des banquiers. Non, non, attendez, c'est pas la faute que des banquiers, c'est la faute des banquiers, c'est la faute des régulateurs, c'est la faute
des banques centrales. Nous sommes d'accord. Je voulais simplement, puisqu'on me posait la question, parler de l'attitude.
Et donc, maintenant qu'on est dans une phase où il va falloir, d'une manière ou d'une autre, re-réguler, et les pays les plus libéraux sont les premiers à traiter ces sujets-là. Comment est-ce qu'on fait, on va élargir le spectre, en Europe, pour essayer d'avoir, je vais dire, une obscénité, une relance budgétaire concertée.
Oui, mais l'explication là est malheureusement d'une simplicité gravissime. Quand j'ai fait le rapport, enfin, j'ai présidé le comité de l'or qui a fait l'Union économique, nous avons consacré 60% du texte à la coopération économique. Ensuite, quand on a discuté du traité de Maastricht, je voyais venir non seulement le libéral Ordnung allemand, mais tous les classiques de l'époque, tous les gens qui déjà allaient adorer le marché splendide autorégulateur. Et j'avais demandé que dans les conditions d'accès à l'euro, on mette deux autres chiffres. Le chômage des jeunes et le chômage de longue durée. Et je me suis fait massacrer en préparation du traité de Maastricht par les Hollandais, et même l'Espagnol qui était là, etc., en disant que les statistiques n'étaient pas comparables. C'était un test pour moi. Ensuite, quand j'ai quitté la Commission, j'ai continué à demander qu'il y ait à côté du pacte de stabilité monétaire un pacte de coordination des politiques économiques, l'équilibre entre les deux. Je suis désolé d'être long, mais s'il y avait eu ça, la confiance se serait davantage installée entre les États, car la coopération engendre la confiance. C'est ça qui a manqué. Donc on était là comme s'il n'y avait pas d'Europe. Ce qui se passe actuellement en ce qui concerne la réplique à la crise, c'est comme s'il n'y avait pas eu 20 ou 30 ans de marché intérieur, 10 ans d'union économique et monétaire.
Dans un article récent, Jacques Delors, vous écrivez que ce que l'on recherche aujourd'hui, c'est une Europe des intérêts communs et non une Europe commune. Et vous le regrettez. Et oui. en même temps, vous ajoutez que l'Europe a toujours progressé en temps de crise. Donc restez optimiste.
Oui, ça, je pense que, de toute façon, une fois que j'ai dit ça, j'ajoute que l'Europe des États ne peut pas faire marcher l'Europe. Il faut revenir à l'Europe des institutions. Bon, voilà les deux points essentiels. Ceci dit, la présidence française a secoué le sleeping wagon de l'Europe, et c'était bien. Mais pour le reste, nous n'irons pas plus loin pour les raisons que je vous ai dites. Absence de coopération au sein même de l'avancée que représente l'Union économique et monétaire. Et deuxièmement, mépris des institutions traditionnelles. Autrement dit, ceux qui nous parlent d'Europe aujourd'hui nous décrivent une splendide voiture, ce qu'il peut y avoir de mieux au salon de l'automobile. Moi, j'arrive, je soulève le capot, et le moteur ne fonctionne pas. Voilà où on en est. Ça, c'est indépendamment de l'autre aspect qui est l'aspect purement politique. L'Europe de la vision et de l'idéal commun n'existe plus en ce moment. Et ça, c'est de la faute de ceux qui nous gouvernent. Alors, ils disent tout ça, c'était des bévues, des idées naïves. Nous sommes pour l'Europe des intérêts communs. Dites-moi, comment conçoivent-ils leurs intérêts communs quand chacun d'entre eux va voir Poutine et Medvedev faire la danse du ventre pour obtenir un avantage particulier? Où est l'Europe des intérêts communs? Sans vision commune, il ne peut pas y avoir d'intérêts communs dégagés, parce que c'est contre la nature des États.
Est-ce que vous craignez l'éclatement de la zone euro aujourd'hui, au moment où on fête les 10 ans de l'euro? Vous qui êtes l'un des pères de l'Union économique et monétaire.
J'ai fait un interview dans Capital Deutschland où j'ai montrer un petit peu d'inquiétude en ce qui concerne la différence des taux d'intérêt pour chaque pays. J'ai été un peu alarmiste, mais si je dois parler du bord de la rivière et non pas là où sont les bateaux, je vous dirais que le coût d'une sortie pour un pays est tellement lourd que je pense qu'au dernier moment, il y aura des mesures qui seront prises pour l'éviter.
Je pose juste une question et je donne la parole à Olivier. Si vous aviez été président de la Commission européenne aujourd'hui, Jacques Delors, est-ce que vous auriez agi de la
ça
même
serait
façon
beaucoup mieux
que Barroso? Vous savez que ce que vous avez dit la semaine dernière au micro de France Inter sur le remplacement par François Fillon ou Alain Juppé, a fait quelques vagues parmi les membres du Parti Socialiste.
Je vais vous expliquer, dans la mesure où des militants du Parti Socialiste qui ont dégoisé sur moi voudraient bien vous écouter. D'après ce que j'ai lu dans les journaux, la reconduction de Barroso est acquise. Bon. Donc je m'adresse au pouvoir en place et je lui dis, dites donc, les Français sont assez éloignés de l'Europe en ce moment. Ils retrouveraient quelque fierté si c'était un Français. Un Français, mais lequel? Alors, comme la droite est au pouvoir, j'ai cité François Fillon et Juppé. Mais moi, pendant la campagne électorale, j'avais milité pour que le président de la Commission soit M. Rasmussen, le président du PSE. Mais si, madame, monsieur, j'avais ajouté à ces deux noms un nom de gauche, on aurait dit que j'entrais dans l'ouverture bidon de Sarkozy. Bon, cette ouverture bidon, je l'ai toujours combattue, donc je n'allais pas me prêter à ce jeu. J'ai simplement dit au pouvoir français, dans le fond, est-ce que vous intéressez vraiment à la Commission, à sa composition et à son fonctionnement? C'était ça. Alors, certains camarades qui n'attendaient que ça, comme disait ma grand-mère, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.
Bon tac.
Alors, encore quelques secondes, quelques minutes sur l'Europe que vous connaissez mieux que beaucoup de ceux qui en parlent. Qu'est-ce qu'on fait, docteur Delors, avec un Barroso, puisqu'on s'est parti pour être Barroso, avec une crise qui est peut-être un élément catalytique? Comment se servir de l'effet de levier de la crise pour avancer un peu dans cette Europe? Parce que sinon, elle n'explosera peut-être pas, mais en tout cas, elle risque d'être marginalisée dans les grands débats qui vont venir.
Jacques Delors.
Si vous voulez, là, nous sommes sur d'abord un point de vue institutionnel. Nous sommes sur un point de vue institutionnel et moi, je stigmatise pas M. Barroso. Je vous ai expliqué les raisons de ma provocation. Mais pour le reste, Les chefs de gouvernement, quand ils se lèvent ce matin en se rasant, selon la formule actuelle, ne pensent pas à l'Europe. Donc il y a des institutions pour ça. Il y a la Commission qui a son indépendance. Il y a le secrétariat du Conseil des ministres et le Conseil des affaires générales, maintenant complètement dévalué. Le Parlement qui est co-décideur. Mais tout ça ne joue plus. Puis je vous raconter une anecdote pour vous montrer combien ça, c'est important. Quand je suis arrivé en 85, j'ai eu cette idée de faire un programme d'échange d'étudiants. On l'a confié au ministre de l'Éducation, qui n'arrivait pas à se mettre d'accord. Et donc j'en avais assez. Et comme j'ai le droit de retirer un projet, j'ai dit à Mme Thatcher, qui présidait l'Union européenne, « Madame, après le Conseil européen, si vous ne donnez pas une impulsion à ce projet, eh bien, moi, je dirais que je le retire et je dirais pourquoi je regrette qu'on retire ce projet Erasmus qui a beaucoup de succès. » Donc, vous voyez que la Commission, sans se dépasser de son rôle, il ne s'agit pas de décider à la place des gouvernements, peut être utile. Eh bien, actuellement, ce mécanisme-là ne marche pas. Le moteur ne marche pas.
Jacques Delors, vous êtes un social-démocrate. Vous savez que Dominique Strauss-Kahn était à Paris la semaine dernière et qu'il était invité à l'émission d'Arlette Chabot. À vous de juger. Dominique Strauss-Kahn, actuellement secrétaire, directeur général, c'est ça Olivier, hein, directeur général du FMI, il a dit « Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la victoire idéologique de la social-démocratie ». Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ?
C'est une formule. Mais dans les pays sociaux-démocrates, depuis 3-4 ans, on n'a pas vu venir la crise plus qu'ailleurs. Si, il y a des pays qui ont été raisonnables du point de vue de leur système bancaire. Notamment, il y a deux ou trois pays dans lesquels les banques n'ont pas pris beaucoup d'engagements extérieurs, ne se sont pas ruées vers ces nouveaux produits, vers les SICAV dynamiques et autres. Mais, dans le fond, tout le monde a subi ce système. Après tout, le premier alerte, c'était août 2007, quand la BNP a gelé trois fonds. À ce moment-là, il fallait que la Commission européenne et que les gouvernements commencent à expliquer et à réfléchir, même si on savait qu'on ne saurait pas tout de suite, hein, qu'on nous cacherait des choses, qu'on ne connaissait pas l'ampleur de la crise. Mais il fallait, dès ce moment-là, réagir et accompagner. Et non pas dire, ben voilà, c'est une catastrophe naturelle, maintenant serrons-nous les coudes.
Alors, dans quelques jours, ils seront nombreux à se serrer les coudes, puisqu'ils se rencontreront, les chefs d'État et de gouvernement, lors du G20, dans trois jours, à Londres. Ce G20 ne va durer qu'une journée. Qu'en attendre, alors qu'on espère une vraie réforme profonde du système capitaliste aujourd'hui ?
Oui, passer de la domination du court terme et de l'instantané au long terme. Encourager dans le système financier et les institutions qui sont plutôt orientées vers le long terme. Se préoccuper du désendettement de l'État et du taux de rentabilité des différents investissements. Essayer d'avoir des règles qui permettent d'éviter autant que possible les dérives actuelles. Que penser des agences de notation ? Les exonérations fiscales, etc. Tout ça, ils ne vont pas le traiter en un jour. Donc ce qu'attendent, puisque c'est aussi une crise de confiance, un pessimisme profond, après une exubérance des années 2005-2006, pour être raisonnable, il faut que le G20 délivre un message qui redonne de la confiance, qui lutte contre le pessimisme. Donc, avec quelques points clés, mais ils ne vont pas tout résoudre. Et à mon sens, il y a une grande divergence entre l'approche anglo-saxonne et notamment l'approche de gens qui sont très remarquables.
Barack Obama, pour ne pas le citer.
Non, le ministère des Finances français qui a toujours une grande tradition internationale. L'Afrique, les questions internationales et cette tradition-là qui, les Allemands vont peut-être s'en rapprocher, est en opposition avec l'approche pragmatique anglo-saxonne, sans compter les intérêts de la place de Londres, le système financier faisant 12 à 14% du PNB britannique. Mais ce que j'attends, ce que j'espère, c'est qu'ils retrouveront les mots pour dire aux gens « on repart bien ».
Je reviens sur la question posée par Caroline. Le côté positif du G20, c'est quand même qu'on est 20. Oui. Et on n'est plus simplement 7 ou 8, c'est-à-dire qu'on associe les pays émergents. Je pense que c'est une bonne chose. Oui. Par ailleurs, est-ce que Barack Obama n'est pas un vecteur d'espoir ? Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver grâce à lui
à avoir peut-être une position américaine.
Nous avons été tous emballés par la campagne américaine, mais franchement, c'est au pied du mur qu'on jugera le maçon. Et il ne faut pas s'emballer. Pas trop de lyrisme, de nominalisme. Les trans sont trop graves pour agir ainsi.
Jacques Delors, j'ai une dernière question, comme au début de l'émission, Olivier disait que ça me démangeait, je vais effectivement la poser. C'est une question qui n'est pas économique, mais je trouve que votre avis sur la question est importante aujourd'hui. Vous êtes chrétien, de confession catholique. Les catholiques aujourd'hui sont divisés sur leur pape. Est-ce que le catholique que vous êtes, Jacques Delors, pense que le pape Benoît XVI est un bon guide pour les humains sur cette terre aujourd'hui ?
Tout d'abord, en tant que catholique, je suis mal.
Mal, M-A-L ?
Oui, M-A-L.
Et mal,
se trouve M-A-L. Que vous êtes mal, M-A-L aussi.
On est mal et je discute avec mes amis prêtres ou jésuites ou autres. Ils sont aussi dans la même situation que moi. Ceci dit, l'acharnement des médias sur un aspect du voyage du pape est quand même préoccupant.
Il n'y a pas qu'un aspect, il y a eu le négationnisme
avant.
Non,
mais tout ce qui est excessif, oui.
Pas du pape. Hein,
sur le négationnisme, nous avons signé et... Ce qui est étonnant, c'est que le Vatican, qui a un secrétariat d'État généralement bien informé, bien outillé, n'ait pas prévenu le pape. Mais ce qui est le plus choquant, c'est l'affaire de la petite brésilienne. Parce que là, nous sommes devant une grande interrogation sur l'humain. Une interrogation terrible.
Cette petite brésilienne qui a été violée,
vraiment,
dont la mère a été excommuniée.
Là, vraiment, la légèreté de l'évêché du Brésil, plus le laisser faire, le laisser dire... du Vatican m'ont beaucoup troublé. Parce que là, je peux m'entendre même avec des non-croyants sur un aspect humain, sur cette petite fille enceinte prématurément. En ce qui concerne le reste, croyez bien que beaucoup de prêtres et de bonnes sœurs font ce qu'il faut, en Afrique ou ailleurs, pour faire une bonne synthèse entre les principes de l'Évangile et les exigences humaines.
Restez avec nous, Jacques Delors, pour le dernier temps de l'économie en question, au cours duquel nous accueillons Raymond-François Lebris, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Vous êtes préfet honoraire, ancien directeur de l'ENA, et si nous vous avons invité ce matin, c'est parce que vous avez présidé la mission sur la formation des agents de l'État, que vous a confié le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction, Éric Woerth, et que vous lui avez remis votre rapport il y a quelques semaines. Alors commençons par cette mission. Un mot peut-être sur le contexte dans lequel vous a été confiée cette mission. Que vous a-t-on demandé au juste, Raymond-François Lebris ?
On m'avait demandé deux choses. La première, c'était de faire le bilan de ce qui se fait en matière de formation initiale, principalement, hors la formation des enseignants, qui était très clairement exclue du champ de ma mission. Donc, comment organise-t-on en France la formation initiale des fonctionnaires ? Comment ça se déroule ? Combien ça coûte ? Comment ça se répartit sur le territoire national ? Bref, faites un bilan de ce dispositif. Deux, dites-nous ce que vous en pensez et quels éléments d'évolution vous suggérez. Je me suis donc acquitté aussi bien que je le pouvais de cette tâche et j'ai fait le bilan et j'ai fait des préconisations.
Alors, de qui parle-t-on déjà quand on parle des agents de l'État ?
Alors, d'abord, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on parle des 2 200 000 agents de l'État, distincts dans leur statut et aussi dans leur mode de recrutement souvent, du 1 700 000 fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires territoriaux, et des 800 000 agents hospitaliers, le total faisant à peu près 5 200 000 agents. Donc moi, ma réflexion a porté sur les 2 200 000 agents de l'État, hors enseignants, puisque comme je vous le disais, ceci était exclu du champ de ma mission.
En gros, le bilan, c'est de Tchernobyl. C'est quand même très perfectible.
Si c'était de Tchernobyl, ce serait encore plus inquiétant.
mais Jacques Delors qui a fait voter
disons
la
que
loi
notre système de formation n'est pas très efficace.
Sur la formation permanente,
pour le dire plus.
On en parlait tout à l'heure. C'est presque pas ce que vous évoquez, pas une question de moyens, c'est une question d'organisation et de modernisation et de gestion.
Absolument. La question n'est pas qu'économique, elle est à mon avis culturelle et j'allais dire sociétale. Elle est économique puisque dans les chiffres que j'ai accumulés, aussi bien que je l'ai pu, avec des imprécisions qu'il faut accepter certainement, j'ai constaté que l'État consacré à la formation initiale et continue de ses agents hors enseignants, 3,3 milliards d'euros par an, n'ont compris les 2,2 milliards
ce qui n'est pas négligeable.
Que coûte la formation des enseignants. C'est donc un total de 5,5 milliards d'euros que l'État consacre à la formation de ses agents, enseignants compris. Donc moi, je me suis intéressé à ces agents hors enseignants pour lesquels on consacre 3,3 milliards d'argent par an pour les former en initial et en continu. Et l'initial, c'est 1,3 milliard, je dis bien, et le continu, c'est 2,2 milliards, soit au total 3,5 milliards. Voilà, ce sont des sommes considérables. Mais la question, elle n'est pas seulement qu'économique. On peut ajouter les chiffres, les multiplier, dire qu'il y a 169 écoles de formation initiale en France, 472 centres de formation continue. Je ne veux pas lasser les auditeurs. La question, elle est beaucoup plus, à mon avis, plus culturelle et sociétale. Pourquoi ? Nous sommes le seul pays, parmi tous ceux que j'ai considérés, de l'Union européenne ou hors Union européenne, dans lequel la formation des fonctionnaires se soit aussi dissociée de la formation universitaire. On a finalement deux systèmes. Un système universitaire qui accueille à peu près 2,3 millions ou 2,4 millions étudiants en stock, si je peux dire, enfin en formation dans les universités, où l'on acquiert des diplômes, où l'on acquiert une compétence technique. Et puis, au-delà de cela, parallèlement, complémentairement, concurremment, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut trouver, il y a un système de formation des écoles de l'État, de la fonction publique d'État. Alors c'est ce système-là, dual, et qui s'ignore, qui est la marque de la spécificité française et probablement une situation qu'il faut beaucoup corriger.
Mais Raymond-François Lebré, qu'est-ce qu'il faudrait réformer en priorité selon vous ? La formation, les écoles de service public ou le recrutement ? Vous savez que la semaine dernière, la réforme de l'ENA a été présentée au Conseil des ministres et acceptée. Elle prévoit notamment l'ouverture du recrutement aux élèves issus des milieux défavorisés et la suppression du classement de sortie. Vous, qui avez été directeur de l'ENA de 1995 à 2000, vous aviez vous-même, en votre temps, du temps où vous dirigez l'école, élargi le mode de recrutement. Alors, est-ce que cette question de la réforme des agents de l'État, de la formation des agents de l'État, passe par la réforme du mode de recrutement ou c'est la formation générale qui pose problème ?
Oui. Vous avez proposé 45 mesures dans votre rapport.
Oui, et 10 propositions.
Voilà, les trois premières. Je renforce encore la demande.
Raymond-François Lebré.
Oui. Bon, simplement, si vous voulez, sur la diversité. Bon. J'ai essayé de le faire autant que je le pouvais à l'ENA. La diversité, elle n'est pas seulement sociale, elle est aussi culturelle. Le fait que, par exemple, quand on recrute des élèves internes, on ignore pratiquement au moment du concours tout ce qu'ils ont pu acquérir avant pour leur imposer un recrutement quasi académique comme pour les externes, est à mon avis hors du temps. Je sais que le gouvernement, et notamment le président de la République, souhaite beaucoup qu'à ce système, on substitue ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience, ou la RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Tout cela va dans le bon sens, parce qu'il est vrai que « académiser » entre guillemets le recrutement de femmes et d'hommes qui ont 30 ans ou 35 ans et ignorer toute l'expérience qu'ils ont acquise, c'est une absurdité. Bon. L'autre aspect des choses, c'est l'absence de diversité par les origines sociales. J'avais créé, quand j'étais à l'ENA, des bourses de mérite pour diversifier le recrutement en organisant des préparations à travers toute la France. Mais ça passait aussi par une diversification des conditions de recrutement. Et notamment par le fait qu'on n'impose pas à tous un degré d'exigence à peu près identique dans toutes les matières, laissant à chacun le soin de faire la preuve de son excellence dans sa matière de référence. C'est aussi un autre aspect des choses. Mais globalement quand même, la vision que je suggère, elle est la suivante. Un, que les universités fassent leur travail. Et notamment dans la perspective de la loi LRU, que Valérie Pécresse a fait voter. Loi que j'approuve entièrement quand elle vise à professionnaliser davantage la formation, à donner plus d'autonomie aux universités, leur donner les moyens des ensembles humains qu'elles coordonnent, les moyens également immobiliers qui leur sont donnés, dans cette perspective de professionnalisation que les universités préparent au savoir technique que les administrations publiques ont besoin d'observer chez les agents qu'elles recrutent, que les administrations ensuite employeuses, les DRH des ministères, les DRH ne sont pas assez actifs, ni présents, ni organisés dans les différents ministères de France, que cela précise aux universités les conditions dans lesquelles ils vont recruter, pour que celles-ci adaptent d'une certaine manière les formations aux perspectives de recrutement, qu'on recrute, mais qu'on recrute sérieusement. Les concours sont évidemment sérieux, mais ils sont très académiques. Qu'on se préoccupe de savoir quels sont les savoirs techniques qui ont été acquis, ça c'est le rôle des universités, mais les compétences que l'on va devoir maîtriser, le sens du service public, les relations aux autres, tout ce qui est essentiel dans la vie d'un agent public, et qu'après on recrute. Et une fois qu'on a recruté, eh bien, on fait une formation courte, professionnelle, l'agent sorti de cette formation est mis rapidement en situation de responsabilité, c'est ce que tous les jeunes attendent. Toutes les enquêtes sociétales vont dans le même sens. Celles de la Sociovision Cofremca sont très éclairantes sur ce point. Et qu'ensuite, ces jeunes ainsi affectés dans leur métier trouvent dans un référent, un tuteur, qui va les accompagner, l'occasion de leurs premiers apprentissages. Voilà la solution que je préconise.
Jacques Delors, est-ce que ces propositions de réforme de la formation des agents de l'État rencontrent votre assentiment ?
Oui, je ne suis pas... Je n'ai pas approfondi le sujet pour ma part. Je vais simplement demander, est-ce que se deviennent les IRA dans tout ça ?
Ils sont maintenus.
Les IRA, c'est quoi ?
Les IRA, ce sont les instituts régionaux d'administration.
J'ai une très bonne expérience d'enseignement dans ça.
Absolument. Il y a 5 IRA en France. Il y a une ENA et 5 IRA. Ce sont 6 écoles interministérielles, puisqu'elles sont placées sous l'autorité du Premier ministre. Je suggère bien sûr qu'elles soient maintenues. Mais ce sont des formations courtes. À l'IRA, c'est un an. Et en réalité, c'est maintenant plus 6 mois de cours et 6 mois de stage.
Mais j'ai été très impressionné.
Très favorable, bien sûr, à leur maintien.
Merci Raymond-François Lebris, merci Jacques Delors. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Jacques Delors, co-signé avec Michel Dolé, « Investir dans le social » chez Odile Jacob. Et puis je signale à nos auditeurs le dernier numéro de la revue Raison Politique, intitulé « D'après Rawls ». Rawls, dont vous faites souvent écho dans votre livre. Et d'ailleurs, je vous l'offre, tiens, Jacques Delors. Beaucoup. La table est devenue très grande dans le studio 167 de la Maison de la Radio. Et puis j'annonce également le colloque que vous organisez avec Jean-Daniel toute la journée au Théâtre du Rond-Point à Paris, dans le 8e, sur le besoin d'Europe, et auquel participeront de grandes personnalités comme Joschka Fischer, ancien ministre allemand des Affaires étrangères, Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes, ou encore Josep Borrell, l'ancien président du Parlement européen. Puis comme j'ai relevé une femme dans ce débat, Jacques Delors, je la cite, Evelyne Gebhardt, qui est députée européenne du SPD. Vous y serez vous-même, évidemment, Jacques Delors, toute la journée. C'était l'économie en question, une émission proposée par Olivier Pastré, Yaël Mandelbaum et Caroline Brouet, à la réalisation Doria Zénine, à la technique ce matin Mathieu Leroux. Comme toujours, nous attendons vos commentaires, vos réflexions, vos questions sur notre site franceculture.com à la page de l'économie en question, rubrique « Vos commentaires ». On se retrouve demain à 11h avec Sylvain Bourmeau autour du dernier livre de l'historien Vincent Duclerc, livre intitulé « La gauche devant l'histoire » qui devrait vous intéresser également. Jacques Delors, paru au Seuil. Bon après-midi à l'écoute de France Culture. Tout de suite à midi, les titres du journal et tout arrive.